Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité ce soir, les Congolais risquent de passer les fêtes de fin d'année sans la majorité des médecins dans les hôpitaux publics. À la base, le syndicat national des médecins de la RDC décide ce jeudi de radicaliser son mouvement de grève, accusant le gouvernement de non-respect de ses engagements. Après l'étape de Kananga au Kasaï central, le président de la République est arrivé ce soir à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Les autorités provinciales attendent de l'arrivée de Félix Tshisekedi, la relance des activités de la société minière Miba pour booster le développement de la province. Notre invité est Pépin Kavota, président de la coordination urbaine de la société civile de Beni. Il revient sur les conditions de vie précaires que traversent les détenus de la prison urbaine de Kangbaï de Beni après la visite des acteurs de la société civile dans cette maison carcérale hier à l'occasion de la fête de Noël. À toutes et à tous, bonsoir. Le syndicat national des médecins de la RDC Sinamed a décidé ce jeudi de radicaliser son mouvement de grève. Le secrétaire général de cette structure syndicale a livré cette information lors d'une déclaration faite devant les médias ici à Kinshasa. À cette occasion, il fustige l'indifférence du gouvernement face à la souffrance des blouses blanches et le non-respect de ses engagements pris lors de la commission paritaire. Dr John Senga, au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Face à cette indifférence du gouvernement, le bureau exécutif national du syndicat national des médecins informe tous les bureaux exécutifs provinciaux ce qui suit. La grève radicale débute le samedi 28 décembre 2024 à partir de 7h30 sur toute l'étendue de la République, excepté dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri, sous état de siège, ainsi que dans les banques de sang. Les médecins directeurs, les chefs de département et de services assument les urgences et commencent à transférer les malades dans les structures privées de leur choix pour la poursuite de leurs soins. Le bureau exécutif provincial ainsi que les commissions provinciales de contrôle et vérification sont instruits pour prendre toutes les dispositions pour le respect de cette décision de la base par tous les médecins des services publics de l'État. Le gouvernement de la République, par sa mauvaise foi, est seul responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces mouvements de grève.
On enchaîne avec le chapitre de la sécurité. Au nord, Kivu, 8 otages des ADF, tous cultivateurs de la localité de Bakila-Tenambo à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, ont réussi à s'échapper des mains de leurs ravisseurs hier dans l'après-midi. C'est le résultat de la pression des opérations militaires des forces conjointes FARDC-UPDF dans cette région. Les sources militaires indiquent que ces derniers ont été amenés dans la forêt de Ndimo, dans la chefferie de Wallace-Vonkutu, dans les territoires du Rumu voisin par ses rebelles il y a quelques semaines. Tous ont regagné leurs familles respectives. Signalons que c'est un total de 27 otages libérés en moins de 2 semaines à la suite de la pression militaire dans cette région. Pendant ce temps, à Ituri, le trafic est suspendu depuis 3 semaines sur le tronçon Bunia-Katoto-Largo qui permet de ravitailler en produits de première nécessité plusieurs localités dans les territoires de Djougou. Cela fait suite aux différentes attaques de la milice Codeco qui empêche la libre circulation des personnes et de leurs biens. Conséquence, des milliers d'habitants n'ont pas accès aux champs et les marchandises sont rares sur les marchés. La société civile locale demande au gouvernement de traquer ces hommes armés dans ces entités où les habitants se disent asphyxiés. N'est-ce pas, Isaac Remoyope?
Des cas de meurtre et d'enlèvement de certains habitants et des pillages de leurs biens attribués aux miliciens de la Codeco sont récurrents depuis le début de ce mois de décembre dans les territoires des Djougou. Selon la société civile locale, ces hommes armés occupent plusieurs localités, notamment dans les groupements Ladejo, Gobi et Pimbo, ce qui a réduit sensiblement la circulation de la population pour accéder aux champs et exercer les petits commerces, déclare son président. Il ajoute que le trafic est suspendu sur les tronçons Bunia, Katoto, Paranganza, Tse, Masumbo, Kalargu et Drodro. Plusieurs marchés communautaires pour la vente des denrées alimentaires et l'approvisionnement en produits de première nécessité ne sont pas opérationnels. Les prix des marchandises dont le sel, le sucre, l'huile végétale et le carburant ont presque doublé sur les marchés. La population qui s'est dit enclavée lance un appel au gouvernement de renforcer l'effectif des FARDC en vue de contenir les menaces des groupes armés. De leur côté, les casques bleus de la MONUSCO ont intensifié les patrouilles pour garantir la protection des civils. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous l'avons dit dans les titres, le président de la République est arrivé ce soir à Mbujima et au Kasai Oriental. Il a été accueilli par les gouverneurs des provinces, quelques membres du gouvernement central, provincial, ainsi que d'une foule nombreuse, partie depuis tôt le matin à l'aéroport. Sur la place Bonzola, où il va tenir son meeting, une autre foule attend pour écouter son adresse à la population du Kasai Oriental. Les autorités locales, notamment le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur des provinces, attendent de la visite de Félix Tshisekedi le développement de la province du Kasai Oriental à travers notamment la relance de la MIBA et la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Des explications avec Esther Ndalafina.
La nouvelle équipe dirigeante de la province du Kasai Oriental, nous citons le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de province, vont pour la première fois accueillir les chefs de l'État pour sa deuxième mandature. Willy Mouya, président de l'Assemblée provinciale, attend de cette visite plusieurs choses, dont la création des entreprises minières.
La province du Kasai Oriental regorge beaucoup de ressources naturelles. Ce que nous demanderons aux chefs aujourd'hui est qu'en dehors de la MIBA, qui est en train d'être relancée, la SACIM, nous voudrions aussi qu'il y ait deux ou trois entreprises de cette ampleur-là, et surtout que les chefs pensent à nous sur l'agriculture, que l'agriculture soit priorité des priorités. Ça sera vraiment un bon départ pour la province du Kasai Oriental.
Jean-Paul Mbwebwe-Kapo, gouverneur de province, veut palper du doigt le développement de son entité.
Le peuple attend de lui la relance de la MIBA. Et parmi les problèmes épineux que nous avons, les routes de dessertes agricoles, l'énergie électrique, ce sont là les priorités que nous avons pour le moment.
Signalons que le chef de l'État va s'adresser à la population d'Mbujimaï sur la place Bonzola dans la commune de la Kanchi. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Et au Kasai central, les forces vives du cadre des concertations de la société civile appellent à la vigilance personnelle du chef de l'État pour booster et concrétiser les projets tels que la route Kananga-Kalambambuji. Dans un mémorandum remis à Félix Tshisekedi à Kananga, elles évoquent également la question de l'électrification avec suite Katende et Mbombo, le chemin de fer et l'interconnexion. D'autres revendications avec Albert Kyungu du CONGD dans cet extrait choisi par François Kadima.
Tout faire le suivi aussi de beaucoup d'initiatives lancées. Chose que nous avons reconnue pour dire, il y a quelques initiatives, beaucoup de projets qui ont été lancés dans la province pour soulager tant soit peu la misère de la population. Mais hélas, les forces vives du Kasai Occidental ont relevé que, contrairement au nombre de ces initiatives qui ont été lancées en province, aucune initiative n'a encore abouti à soulager la misère, à donner des sourires aux fils et filles centre kassaïens. Pour cela, nous avons exprimé nos préoccupations majeures au chef de l'État, son implication personnelle pour l'accélération et l'aboutissement des différents projets et des différents programmes qui sont lancés dans la région du Kassaï. Voirie urbaine, lutte anti-érosive, le PEDEL 55-3, c'est partout. Les fonctionnements réguliers du chemin de fer, les désenclavements de la région du Kasai et bien d'autres programmes de construction de forces qui sont lancés dans la région, leur ont demandé son implication personnelle. Cette implication veut simplement dire qu'il s'implique pour le décaissement effectif et à temps opportun des fonds nécessaires pour que ces travaux avancent.
Signalons que Félix Tshisekedi, qui vient de boucler son séjour à Kananga, a également échangé avec les chefs coutumiers, étudiants et d'autres acteurs. Revenons ici à Kinshasa. L'Assemblée provinciale a jugé mardi recevable le projet d'édit budgétaire exercice 2025 du gouvernement Bumba. Cet organe délibérant a levé cette option lors de sa plénière consacrée à la présentation de cette loi des finances de la ville-province de Kinshasa. Plus de détails avec Jordan Blaise Shindani Kambala.
Ce projet d'édit budgétaire présenté par le gouverneur Daniel Bumba est chiffré à plus de 3 000 milliards de francs congolais, plus d'un milliard de dollars américains, contre plus de 2 000 milliards de francs congolais, soit plus de 783 millions de dollars américains pour l'année 2024. Ce projet de loi des finances connaît ainsi une augmentation de l'ordre de plus d'un milliard de francs congolais, équivalent à plus de 368 millions de dollars américains. Un seul député s'est abstenu lors du vote de ce projet du budget sur les 48 députés que compte l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À en croire le premier citoyen de la ville, la répartition des crédits dans le cadre du présent projet d'édit budgétaire repose sur les principaux axes de gouvernance, socle du programme d'action du gouvernement provincial dénommé Kinshasa et Zobonga. Déclaré recevable par l'Assemblée plénière, le projet projet d'édite budgétaire du gouvernement provincial pour l'exercice 2025 a été remis à la commission ECOFIN pour une analyse très approfondie qui doit prendre 2 jours, soit ce jeudi.
Sud Kivu, l'expulsion brusque d'un groupe de Chinois accusés d'exploitation illégale des minerais du sous-sol de la province suscite des remous au sein de la communauté et de la classe dirigeante. Le gouverneur des provinces menace de traduire en justice toute personne physique ou morale qui se serait donné la permission de court-circuiter la volonté du chef de l'État qui soutient l'autorité provinciale à combattre la fraude minière qui plonge les Sud Kivu et la RDC dans la pauvreté. Nene Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile, promet, elle, le soutien de toutes les forces vives de la province derrière toute lutte contre le crime économique occasionné par les ennemis de la relance du développement du Sud Kivu. On l'écoute au micro de Jean Kassami.
Il semble qu'il y a eu des coups de fil au niveau de la DGM, au niveau de la PNC, parce que le général de la police était aussi au courant. C'est lui qui a déployé les éléments qui les gardaient. Et d'un coup, des gens sans papier, qui exploitaient même sans permis d'exploitation, ni sans permis de recherche, ils sont partis en passant par le Rwanda. Donc c'est une situation inacceptable pour le Sud Kivu. Et nous pensons que l'assainissement du secteur minier doit être une priorité du gouvernement provincial, mais aussi avec l'appui du gouvernement national. Le gouverneur aussi nous a appelé dans un point de presse le mardi soir où il nous montrait aussi sa déception par rapport à cette question. Il nous a montré les correspondances qu'il avait adressées à la DGM pour ne pas occasionner que ces gens puissent être libérés et que le chef de l'État aussi aurait appelé pour lui demander de tout faire pour que ces gens ne quittent pas le pays. Maintenant, on se demande qui est la personne qui est au-dessus du chef de l'État, qui a donné des ordres contraires. En tout cas, pour nous, la société civile, nous voulons que les choses soient clarifiées.
Nene Bintou s'est exprimé ainsi au sortir d'une réunion d'information convoquée par le gouverneur des provinces, Jean-Jacques Pourroussi, le jour même de l'expulsion unilatérale de ces groupes de Chinois qui venaient d'être arrêtés la veille dans le site de Karembo, dans le groupement de Rubimbi, territoire de Walungu, par une délégation conduite par le ministre provincial des Finances. La campagne agricole 2024-2025 est bien partie dans la province de la Tchopo. Plusieurs centaines de tonnes de semences et d'outils aratoires ont été remis mardi aux inspecteurs territoriaux de l'agriculture par les gouverneurs des provinces. Ces semences sont constituées de riz, maïs et arachides. On retrouve également des niébés et des soja, ainsi que 942 000 mètres linéaires de boutures saines de manioc. Cette dotation du gouvernement central par les biais du ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire est destinée aux associations et coopératives agricoles. Plus de précisions avec Jacques Moukonkoli.
L'inspecteur provincial de l'agriculture révèle que par cette dotation, les autorités nationales tiennent à diversifier l'économie du pays. Pour Augustin Milambo, ces cultures vont avoir un impact certain sur l'économie nationale.
Les chefs de l'État veulent quand même diversifier l'économie. Sa vision, c'est celle de la revanche du sol sur les sous-sols. L'agriculture peut vraiment booster l'économie de notre pays. Donc, c'est pour donner quand même un grand revenu et aussi assurer la sécurité alimentaire des populations.
Les inspecteurs de cette territoire de la province de la Tchopo ainsi que ceux de la ville de Kisangani ont réceptionné symboliquement ces semences des mains de l'autorité provinciale. Ils en sont satisfaits comme en témoignent quelques-uns.
À Opala, j'ai 1875 hectares avec ça qui va faire un impact auprès de tout non-ménage agricole. On va se sentir à tous les niveaux.
Par rapport aux résultats, nous nous attendons à un bon résultat là.
D'autres trouvent que l'acheminement de ces semences dans leur milieu est une difficulté majeure pour eux, comme l'explique celui de Yaouma.
Le déploiement des matériels, ça va poser un problème. S'il y a les moyens de déploiement, l'argent, on va amener chez moi à peu près une affaire de 300-310 km à Yaouma. Comment je dois amener la quantité?
Signalons que les bénéficiaires, à savoir les associations et coopératives agricoles, sont déjà identifiés, précise le chef de division provinciale de l'agriculture, Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACER a alerté le 20 décembre sur un afflux de réfugiés au Soudan du Sud en provenance du Soudan ces dernières semaines. Alarme également tirée lundi 23 décembre par Médecins Sans Frontières MSF qui note que plus de 5000 personnes ont traversé chaque jour en décembre la frontière entre les deux pays. Conséquence, les deux centres de transit des Rinks côté sud-soudanais sont totalement débordés et une épidémie de choléra déclarée en octobre est en augmentation alarmante et rapide selon l'ONG.
L'invité.
Les conditions de vie difficiles des populations carcérales, le nombre insuffisant des magistrats face au nombre élevé des détenus ainsi que les restrictions des visites aux détenus sont là quelques soucis qui ont été soulevés hier par le responsable de la maison carcérale urbaine Kangwai de Beni devant une vingtaine d'acteurs de la société civile qui ont rendu visite à ces détenus à l'occasion de la fête de la nativité. Comment expliquer cette situation et que préconise la société civile pour y faire face? Nous en parlons avec Pépin Kavota, président de la coordination urbaine de la société civile de Beni, dans cet entretien avec Marc Marofimo.
Maître Pépé Kavota, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le coordonnateur de la société civile dans la ville de Beni et vous étiez à la tête d'une grande délégation des acteurs de la société civile, c'est de l'association culturelle Kiandaïra, des mouvements citoyens, des groupes de pression, ainsi que de la jeunesse, pour rendre visite dans les maisons carcérales de la ville de Beni. Je parle de la prison centrale de Kangwai, l'établissement des gardes pour enfants, ainsi que la maison carcérale de femmes. Comprenons quelle a été votre motivation à ce jour spécial des fêtes de nativité.
En fait, vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2024. C'est une journée de nativité de Jésus-Christ. On se souvient effectivement de ça. C'est autant que nous avons décidé d'aller vers les patriotes qui sont à détention. Nous avons commencé par la prison de femmes. Nous sommes allés à l'EGE et maintenant nous sommes au niveau de la prison de Beni Kangwai. Nous avons amené une petite chose pour festoyer avec nos compatriotes, nos collègues, nos amis qui sont en détention parce qu'ils sont dans une exception, parce que la liberté est à la règle, mais la détention l'exception. C'est au temps que nous sommes là. Nous les avons souhaité joyeux Noël. Nous avons souhaité aussi une bonne année, une nouvelle année 2025 de liberté dans leurs familles respectives.
Qu'est-ce que cette visite peut représenter pour vous, à part les souhaits?
Au fait, d'abord, c'est notre cheval de bataille pour que ceux-là qui sont en détention constatent effectivement que ceux-là qui sont à l'extérieur sont en train de se souvenir d'eux. C'est ce qui a poussé à ce que les mamans, les jeunes, la société civile toute entière soient en prison de Beni Kangwai et chez les mamans et chez les enfants. Donc, c'est une grande journée pour les chrétiens. C'est autant qu'on a choisi cette journée pour venir ici.
Maître, lors de vos échanges avec les responsables de la prison, on a senti un chiffre élevé de détenus avec beaucoup de besoins connexes et il a même fini par dire que la société civile devait aussi les appuyer aux côtés du gouvernement. Vous, votre réaction par rapport à ça?
D'abord, il faut dire qu'on est en train d'y travailler. Le plaidoyer continue. D'abord, par rapport à l'insuffisance des magistrats au niveau de tribunal militaire de garnison de Beni et même des magistrats à l'auditorat. Voyez-vous, la prison de Beni Kangwai, non seulement son ressort est étendu sur le territoire de Beni et sur la ville de Beni et que donc ces nombres, comme nous sommes sous état de siège, poussent à ce qu'il y ait un grand nombre de prisonniers à détention à Beni Kangwai. Un nombre élevé de 1514, c'est beaucoup. Et que donc, nous pensons que tous ceux-là qui vont nous écouter, que ce soit députés, que ce soit ministres, ils doivent réfléchir sur l'augmentation des magistrats assis et debout en ville de Beni. Et même la création d'autres juridictions dans les territoires de Beni. Parce que nous avons vu que tous les territoires n'ont pas un tribunal pour que il juge ceux-là qui seront en train de commettre des infractions de la compétence de leur ressort. Voilà, c'est autant qu'on est là pour que l'on essaie de voir comment faire des plaidoyers. Mais aussi, en dehors de ça, avec l'appui du CICR, mais aussi la restauration du gouvernement central, avec la démographie pénitentiaire, c'est beaucoup. Et que donc, toute la population de la ville de Beni, toute la population du territoire de Beni, nous devons nous tous nous souder le cou pour venir en aide à cette population. Mais aussi, il s'avère que parmi ceux-là qui gardent ici, il y a ceux-là qui tracassent la population, qui viennent visiter les détenus. Là aussi, il n'y a aucune loi qui, n'est-ce pas, dit que lorsqu'il y a une visite, il faut payer. Donc là, nous tenons tous les policiers à l'œil. Si nous avons une alerte en rapport avec le paiement d'une petite somme, eh bien, nous allons en informer les autorités hiérarchiques pour que ces gardes soient punis selon la loi.
En vous écoutant parler de cette tracasserie, on peut directement conclure, soit dire que c'était le problème de l'ignorance de la part de la population et comment elle va s'en prendre.
Effectivement, ils doivent se dire que si vous venez visiter votre familier, vous ne devez pas payer même un petit rond. Même si vous voulez donner au gardien, ok, vous donnez, mais ce n'est pas obligatoire. Et que donc, s'il y a une personne qui serait, n'est-ce pas, tracassée par ces paiements-là, je lui demande de venir au niveau de la société civile, au niveau du bureau de la jeunesse, du Kiandaïra, pour dénoncer, afin que nous puissions, n'est-ce pas, remonter cette information acquis des droits.
Maître Pepe Kavota, merci.
C'est à nous de vous remercier, messieurs les journalistes.
Notre invité était interrogé par Marc Maro Fimbo. 18h20 dans ce studio. Ainsi s'achève ce journal, coordonné par Blaise Shindani Kambala, sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe, Pierre Diassinoa, la mise en onde, et grâce à Mzati Masanzi. Je vous l'ai présenté. Merci.